Imagination, une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous voici donc au terme de nos 8 entretiens sur la question de l'imagination que nous avons pris comme trait de liaison mais aussi de disruption entre les pratiques scientifiques et les pratiques artistiques. Et dans ce dernier épisode, je vais recevoir quelqu'un qui est vraiment au cœur, je dirais, de ce problème, de cette question très intéressante, qui est donc Franck Madlener, directeur de l'IRCAM, ou si l'on préfère, de l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, comme chacun l'ignore. Franck Madlener, comme je viens de l'indiquer, vous êtes directeur de l'IRCAM, mais vous avez derrière vous une très longue carrière. Vous êtes d'abord un musicien, vous êtes pianiste, vous êtes philosophe, vous avez fait de la direction d'orchestre aussi, et vous êtes aussi un esprit très européen. Vous avez probablement travaillé dans la plupart des pays européens, en tout cas tous ceux qui comptent pour ce qui concerne la musique. Après toutes ces allées et sans retour, vous êtes devenu en 2006 directeur de l'IRCAM Centre Pompidou. Vous avez succédé en fait à Pierre Boulez à la direction de l'IRCAM. Et si je peux me permettre juste pour vous lancer, je pense que cette fonction de directeur est assez injuste en ce qui vous concerne, parce que je pense que vous êtes un artiste. On dirait pas d'un directeur de laboratoire qui n'est pas un scientifique, par exemple. Il le prendrait très mal. Et en votre cas, et c'est très particulièrement votre cas, et c'est lié à la structure de l'IRCAM et la façon dont l'IRCAM fonctionne, moi, je vous vois d'abord comme un artiste qui a construit une sorte de laboratoire, une sorte d'atelier. On reviendra peut-être sur cette question de la distinction entre l'atelier et le laboratoire. Et de ce fait, vous êtes un véritable artiste contemporain, c'est-à-dire qui est capable de comprendre comment une activité collective qui inclut des hommes, des machines, des scientifiques, des artistes, peut créer une œuvre musicale. Et c'est un petit peu sur ce thème que j'aimerais que nous puissions entamer aujourd'hui cette discussion. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir en dernier, parce que pour moi, vous êtes tout à fait au centre du problème qui a été posé pendant les 8 entretiens que nous avons conduits avec nos collègues et amis.
Alors, je pense que votre question de l'imaginaire, elle est en effet entreprise par les artistes et les scientifiques de façon très, très différente. Et le point de vue que j'aimerais donner, enfin la perspective, la direction, c'est ce rapport entre la vision et l'exactitude, d'une certaine façon. On pourrait dire, pour aller vite, entre le domaine intuitif, artistique et le domaine scientifique. Et d'ailleurs, en guise de démarrage, je crois que l'imagination, ce que Pascal appelait la folle du logis, est en fait fille du logos, c'est-à-dire qu'elle a partie liée à la raison organisatrice. Ce n'est pas, pour moi, l'illusion, le fantasme, enfin tout ce qu'on a pu appeler dans la psychanalyse le fantasme qui a succédé au jeu. Vous jouiez enfant, vous créez un monde double plus tard. C'est beaucoup plus précis que ça. C'est peut-être la capacité à créer un monde qui a la même valeur que le monde réel, on pourrait dire un monde irréel, qui est tangible, qui a ses lois, qui a son organisation, et qui, finalement, c'est la capacité à interrompre notre propre monde, qui est finalement assez rare, finalement. L'imaginaire, pour moi, l'imagination, en tout cas, est cette faculté d'interrompre notre propre monde. Et donc, elle a à voir beaucoup avec la mémoire. Elle a à voir avec la mémoire et avec la façon dont on met en échec cette mémoire. Alors Pierre Boulez, qui a créé l'IRCAM, qui était hypermnésique, a souvent mis en garde contre les habitudes de la mémoire. Parce que finalement, une mémoire qui travaille, c'est un métier, ce sont des habitudes. Et donc, à un moment donné, si vous voulez laisser la place à l'imagination, ben il faut créer des effets d'interruption, de bifurcation. Et donc, si l'imagination n'est pas simplement le double, le supplément d'âme ou le sfumato qu'on mettrait sur une activité humaine, qu'est-ce qu'elle est ? Je crois que c'est une faculté de percevoir, en fait, de décoller du présent, c'est-à-dire de considérer finalement le présent comme une hypothèse puissante, envahissante, mais qui n'est pas la totalité. Et avoir aussi la sensation que cette réalité, ce réel, est appelé à altération, est appelé à muter, à se transformer. Et en cela, un artiste et un scientifique partagent ce point. Ils ne considèrent pas que le donné, le présent, est une chose immuable.
Ils ne devraient pas, en tout cas.
Ils ne devraient pas, en effet. Et puis alors, il y a une citation que je voudrais, ce sera peut-être la seule, parce que citer toujours ennuyeux et fastidieux, une citation de Bachelard qui est très belle, qui montre cette relation entre réel et irréel. Il dit qu'un être privé de la fonction de l'irréel est un névrosé aussi bien que l'être privé de la fonction du réel. Et je crois que là, tout se joue. C'est-à-dire que même Don Quichotte, qui est l'homme de l'imagination, de la folie, il est extrêmement logique. Et il retombe très bien sur ses pattes, beaucoup mieux que Sancho Panza. Donc finalement, cet artiste, qui voit des signes partout, qui lit le monde comme un livre de signes, il est extrêmement consistant. C'est quelque chose de tangible. Il y a de la causalité, il y a une déduction par rapport à ce qui se passe. Et donc, dans cette balade avec vous autour de l'imagination artistique et scientifique, je voulais vous proposer comme point de départ une polémique, parce que souvent les polémiques exacerbent les points de vue. Et c'est une polémique qui a eu lieu au XXe siècle, en 1920, entre deux compositeurs. Alors, d'une part, Hans Pfitzner, qui était un compositeur allemand, qui vantait le mérite du saint art allemand, et qui ne supportait pas la dégénérescence moderne. Bon, ça c'est une figure de la réaction. Il fut un ardent défenseur du Troisième Reich ultérieurement, mais là il préparait ses armes. Mais en face de lui, Alban Berg, école de Vienne, donc plutôt la modernité, fils spirituel de Schoenberg, qui bouleverse tout de la musique en son temps. Et donc Alban Berg va lire un texte de Pfitzner, un texte où en fait Pfitzner, artiste réactionnaire, vient défendre une œuvre toute simple, toute innocente, qui est une œuvre de Schumann, qui est la rêverie des scènes d'enfants de Schumann. Et que dit Pfitzner ? Il dit que cette œuvre exprime une évidence aussi profonde, une clarté aussi mystique que la vérité elle-même. Et puis il ajoute, pour enfoncer le point, c'est sur cette œuvre, l'homme moderne tente de nous extirper le sens inné pour la beauté d'une mélodie. Et dans tous ces termes, donc d'une modernité oublieuse et technique, même haïssable, dans tous ces termes, on reconnaît la position d'un homme grincheux quant au présent et qui donc s'attache à Schumann. Alors ce qui est très curieux, et ça c'est souvent le signe d'une grande idiotie, c'est qu'il défend une cause qui n'a pas à être défendue. C'est-à-dire que la rêverie de Schumann, tout le monde la fredonne, elle est connue, donc je viens en avocat d'une chose qui est là, qui a été acceptée de tout temps, enfin avocat de rien finalement. Et en plus, il extrait cette merveilleuse rêverie de son cycle, que sont les scènes d'enfants, les Kinderszenen de Schumann. Et à ce moment-là, Alban Berg va charger au bazooka, avec la brusquerie de Schoenberg, avec la finesse de quelqu'un qu'il admirait beaucoup, qui est Karl Kraus, un esprit viennois, assassin et précis. Et il commence à prendre les points. Cette rêverie, elle est la 7e pièce au sein d'un cycle qui en compte 13. Il y a peut-être un projet pour le fait que cette pièce s'isole et est en même temps l'axe de symétrie du cycle. Ensuite, il s'avère que dans cette ligne toute simple naît du premier intervalle. Donc Robert Schumann part d'un intervalle et le déploie sur une ligne. Il y a une sorte de cohérence entre ce qui est local, ce qui est tout petit, isolé, et ce qui est plus large. Et puis il va harmoniser les sommets de cette mélodie toute innocente, toute pure, à chaque fois de façon différente. Donc tout ça est très prémédité. Et ce que démontre, d'une certaine façon, Alban Berg, c'est qu'il y a le calcul d'une forme. C'est pas simplement une nature innocente qui s'exprime, une beauté devant laquelle on doit se signer devant l'innocence de cette beauté. Il y a une préméditation précise dans ce qu'a fait Schumann. Schumann a composé intégralement le musical. Et d'une certaine façon, il a une écriture rigoureuse à quatre voix. Alors c'est intéressant parce que l'imagination de Schumann, qui est vraiment l'artiste romantique, on pourrait dire par excellence, même si ce terme est un peu simple, elle est prodigieuse. Chez Schumann, vous avez l'humour, qui est l'humeur, le fantasque, vous avez la fantaisie, qui est vraiment l'imaginaire pour les Allemands, l'art de s'interrompre, de se diviser, de changer de signature, de se masquer, d'être assez imprévisible, intempestif. Et vous avez ça aussi chez Alban Berg. Mais ce caractère intempestif traverse une grille, un certain formalisme, comme si elle avait besoin de cette grille, de ces formalismes pour exister. Et c'est là où c'est intéressant, ce que Pfitzner n'a absolument pas compris. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que l'article d'Alban Berg, à la fin, donne un exemple de Pfitzner en disant que oui, on peut le fredonner et on n'en tirera rien parce que ce n'est rien. Donc évidemment, la méchanceté, in quoda venenum, et c'est comme si dans une œuvre artistique apparemment simple, l'apparence de simplicité de l'art, il y a un chiffrage, il y a un code. Et je suis convaincu que l'auditeur le plus innocent, ce qu'on peut l'être, ressent ce formalisme. Il ressent à la fois une impulsion, une invention, et il ressent en même temps une forme qui a été préméditée. Et finalement, cette polémique de 1920 dépasse de beaucoup le cas de Schumann, de Berg, de Pfitzner. Elle est plus ancienne et elle est plus constante. C'est finalement, de certaines façons, il y a la parole réactionnaire qui dit « on essaie de masquer l'impuissance musicale par des explications théoriques ». Donc une grande méfiance du théorique. Ça, c'est l'attaque de Pfitzner. Et surtout, on dit « la musique n'a plus besoin d'être belle et le compositeur ne doit plus avoir d'inspiration personnelle ». Ce sont des phrases qui peuvent être reprises aujourd'hui, qui ont déjà été, finalement, c'était la querelle de Rameau et de Rousseau. Finalement, Rousseau disait que Rameau était un vieux cérébral théorique desséché, tandis que la seule musique qui valait la peine, c'était la musique italienne, qui va de l'âme à l'âme, de la transparence à la transparence, une sorte d'intention immédiate entre celui qui crée et celui qui écoute. Et donc, cette dissociation, cette mise en garde, entre d'une part l'homme théorique, on pourrait dire, et l'homme sensible, elle est permanente. Elle se retrouve partout. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est passionnant, là, j'ai fait un long détour pour y arriver, dans un lieu comme l'IRCAM, c'est de se dire que les deux se mêlent. Et que finalement, à nouveau, on le sent en l'écoutant. On sent en écoutant cette puissance d'une forme en train de se faire.
Et la part que le scientifique donne à la possibilité de développer une forme pour un artiste. C'est-à-dire que on a l'impression à l'IRCAM qu'une des fonctions de l'IRCAM, c'est justement de mobiliser les scientifiques autour de cette émergence de la forme qui est dans la tête de l'artiste et donner les outils, la technique qui permet de créer ces formes. Puisque il semble que vous accordiez effectivement, quand on vous écoute, quand on lit ce que vous pouvez écrire, une attention très très particulière à la forme. Plus d'ailleurs qu'au formalisme, à la forme.
Absolument, à la forme, et même plus qu'au matériau, parce qu'on peut dire que la musique contemporaine a été très obsédée depuis Varèse, et puis dans la fin du XXe siècle, par le matériau émancipé, hein, mais parfois en omettant l'inventivité formelle, qui est quand même absolument essentielle. Enfin, on le voit dans l'architecture, il y a de nouveaux matériaux et donc de nouvelles formes. En musique, le donc n'est pas si évident.
C'est-à-dire la référence au Bauhaus, effectivement, est assez claire.
Oui, ouais. Absolument. D'ailleurs, ouais. c'était le modèle pour l'IRCAM. Et on pourrait presque dire qu'il y a dans ce rapport entre le laboratoire et l'atelier, pour reprendre les deux termes qui existent consubstantiellement à l'IRCAM, il y a le rapport finalement entre quelque chose qui fulgure, entre l'intempestif, on pourrait dire, et la fonction. Ce qui est passionnant avec des scientifiques, c'est d'avoir un problème partagé. C'est-à-dire qu'un artiste, il n'a pas du tout envie. Un artiste, il veut être singulier, il veut être seul dans son espèce, il ne veut pas nécessairement partager quelque chose. Le scientifique, il a intérêt à être plusieurs sur un problème. Et je dirais, il y a un autre point commun qui me semble très frappant, c'est l'idée fixe. C'est-à-dire que finalement, un artiste, d'une certaine façon, tourne autour de la même idée tout au cours de son œuvre, de sa carrière, comme on pourrait dire de façon horrible, et un scientifique aussi. Enfin, il n'a jamais eu qu'une idée, peut-être, et qu'il va développer, changer, transformer, détourner.
Mais simplement poursuivre.
Ou poursuivre.
Parce que sans la rattraper, très souvent, c'est-à-dire que les grands savants sont des gens qui ont eu, au fond, une idée dans leur vie, mais ça leur a tout pris, quoi. Qu'on pense à Darwin, évidemment, qui quand même pour moi reste Claude Bernard, ou qu'on pense même à Turing. Hein. Encore que Turing est plus compliqué, parce que lui, il a eu... Il était à la fois philosophe, mathématicien et biologiste, donc il a eu trois idées.
Mais, et considérable.
Mais trois idées, trois articles, mais considérable. C'est le plus grand poète du XXe siècle, sans aucun doute. Oui, c'est vrai. La question du conservatisme, elle est moins importante en science parce qu'elle est plus utile, je dirais. Le conservatisme en science est utile dans la mesure où il oblige à augmenter la preuve. C'est-à-dire que c'est une cité très conservative. Vous citiez Bachelard tout à l'heure. La cité scientifique est vraiment très, très conservative, réactionnaire même. Mais en même temps, ça oblige les gens qui sont dans le choc, dans la transgression, qu'on peut prendre aussi en musique, évidemment. Cette transgression qui accompagne ce choc, au moment où tout d'un coup, on voit... Ah, Ça oblige à bétonner sur le plan expérimental tout ce que l'imagination a pu faire entrevoir à un moment. Donc c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je suis pas conservateur en sciences, j'essaye de ne pas l'être, mais je me suis souvent posé la question de la fonction positive d'un certain conservatisme, parce qu'on peut pas en sciences se permettre autant de liberté peut-être, je ne sais pas si vous me le direz, dans des pratiques scientifiques.
Est-ce que ce ne serait pas finalement l'exactitude, c'est-à-dire cette importance de l'exactitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on part de quelque chose, on éprouve quelque chose, on expérimente quelque chose d'assez précis, quitte à repousser les lignes, à aller voir ailleurs, à bifurquer. Mais je pense que cet acte de précision existe dans l'art de la même façon, mais de la même façon.
Mais c'est un art de démonstration, surtout. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas artiste pour un rond, donc mais il y a une nécessité de démontrer dans laquelle le niveau de preuve est d'autant plus haut que la transgression est plus forte.
Oui, mais alors par exemple lorsqu'on fait rencontrer, alors je vais prendre un autre exemple assez fameux dans la musique contemporaine, parce que là je parlais du romantisme, mais en s'approchant du XXe siècle, un compositeur qui a vraiment inventé un nouveau matériau de nouvelle forme, qui s'appelle Helmut Lachenmann, il a imaginé une pièce qui s'appelle Zweigefühl sur un texte de Leonardo. Il était très marqué par ses carnets de Léonard de Vinci, qui sont finalement ce qu'il a fait de plus permanent. Il n'a fait que commencer les choses, Leonardo. Il était incapable d'achever une œuvre. On le voit bien. Ces carnets, les différents codex, c'est absolument délirant. C'est une sorte de soif face aux mille formes de la nature et d'appétit de connaissances qui est invraisemblable. Bon. Et dans ce texte de Léonard de Vinci, qui a été mis en musique par Helmut Lachenmann, d'ailleurs, sa pièce s'appelle Musique mit Leonardo, donc la musique avec Leonardo, il y a la description de deux choses, deux états. Description de la nature en furie. Il y a l'Etna, le Mongibello, il y a des flammes, il y a les éléments, enfin la nature effarante, cataclysmique. Et puis dans la deuxième partie, il y a l'observateur, c'est-à-dire l'observateur qui peut être l'artiste, qui peut être le scientifique, qui regarde ça avec effarement et avec attention et... c'est une sorte de rêverie sur les mille et une formes de la nature. Et à un moment donné, cet observateur, qui est vraiment le personnage, finalement, on passe de la nature à l'observateur, il explique qu'il se penche en direction de l'entrée d'une caverne sombre, qui lui fait très peur. Et il dit, grosso modo, dans le texte de Leonardo, il explique bien sa position, comment scruter l'ombre. Et à ce moment-là, montèrent en moi deux sentiments face à l'obscurité qui régnait, c'est-à-dire le désir d'y aller, le désir de connaître, et la peur d'y aller. Et ça a été, ce qui est un geste sans doute éminemment scientifique, peut-être artistique aussi, et c'est due cause, les deux choses sont devenues Zweigefühl en allemand, ce qui est très mal traduit, deux sentiments, c'est pas deux sentiments, c'est deux choses, c'est deux entités qui sont là. Qu'a fait Lachenmann avec cette pièce? Eh bien, il a pris ce texte, il l'a diffracté, il y a un récitant qui prend ce texte qui est, on pourrait dire, déconstruit. Et c'est comme si vous lisiez un texte, vous le déchiffriez en braille, pas à pas, syllabe à syllabe. Donc il se forme petit à petit dans votre conscience. Et l'instrumentarium qui est derrière le récitant diffracte les sons, toutes les consonnes allemandes dans le corpus sonore. Et tout le mouvement de l'œuvre, c'est un mouvement vers la contemplation, c'est-à-dire un mouvement de paralysie où... quelqu'un parle, observe, on le voit parler, observer, et petit à petit, il ralentit. Et donc, Lachenmann réalise un point comme ça de convergence entre celui qui dit, celui qui écoute, et celui qui cherche. C'est-à-dire ce moment d'effarement tranquille face à la nature. En fait, la nature n'a plus aucune importance. Il y a une sorte de seconde nature qui naît, c'est l'observation. Cette nature qui occupe la première partie, elle est absorbée, c'est-à-dire un paysage méditerranéen en folie. Il y a une sorte de mimétique de cette nature, et c'est finalement l'observation minutieuse, attentive, qui devient le centre de la pièce. Je voulais citer une phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde, qui dit qu'il n'y a jamais eu de brouillard sur la Tamise avant Turner. Ben, je pense qu'il n'y a pas eu d'éruption de l'Etna avant cette pièce. C'est donc la nature qui a imité l'art.
Ni de lever de soleil avant Corot.
Den Herr aus und tre und k- ten den spielen Flach, Stummen, Zucht, Schleu, die Lutern. Noch auch die Blühenden. Mon Ventibello. Beim heraus stoßen des schlecht verwahrelten Menschen. Jeden des Hindernis der das Jagen. Und
France Culture, imagination, Alain Prochian.
Donc nous avons cette discussion aujourd'hui avec Franck Madlener, directeur de l'IRCAM, sur la question qui nous préoccupe depuis maintenant 8 semaines, qui nous occupe surtout depuis 8 semaines, parce qu'elle nous préoccupe depuis bien plus longtemps, sur le rapport entre art et science, un rapport compliqué, parce qu'il y a à la fois des choses communes et des choses qui séparent les deux continents de façon, à mon avis, dramatique, hein,
oui.
Disons-le.
Oui.
Et l'IRCAM, c'est vraiment l'endroit où on pense, en fait, cette proximité et cette distance. Et Franck Madlener propose souvent dans ses interviews, dans ce qu'il écrit, cette question du laboratoire et cette question de l'atelier.
Oui.
C'est-à-dire, alors l'atelier, ça nous renvoie à une mythologie du peintre, et le laboratoire à une mythologie du savant.
Mmh.
Est-ce que, Franck, vous voulez continuer sur ce thème
ou... Je pense aux deux comme un lieu collectif, parce qu'on peut toujours voir l'artiste en solitaire. Moi, je crois aujourd'hui qu'au XXIe siècle, l'atelier d'artiste est peuplé de beaucoup de compétences qui se complètent. Il y a non seulement les humains, il y a aussi la machine, il y a l'informatique. Enfin, quand vous voyez comment est fait un bâtiment, comment est fait une œuvre musicale, l'électronique, il y a des compétences qui se complètent, voire des hiatus d'ailleurs entre ces compétences. Un exemple très concret. Un compositeur anglais, Jonathan Harvey, anglais jusqu'au bout des ongles, c'est-à-dire fou de musique vocale, et un jour arrivé à l'IRCAM avec un rêve, ce qui est un bon point de départ, le rêve ou l'idée fixe. Hein. Je rêve d'un orchestre parlant. Alors un orchestre parlant, c'est pas nécessairement un orchestre où les musiciens se mettent à ouvrir la bouche. C'est plutôt un orchestre qui nous donnerait l'illusion, à nous auditeurs, qu'une voix sort de l'orchestre, alors qu'il n'y a pas de voix. Et donc à partir de ce rêve commence une enquête. qu'est-ce que ça signifie la parole ? C'est-à-dire comment on analyse la parole ? Comment on mesure qu'il y a de la parole ? Alors on peut analyser le chant d'oiseau, hein, mais si on l'avait déjà fait, mais aller beaucoup plus loin. On peut analyser le babil de bébé, quand il devient signifiant ou pas. Est-ce que c'est une question de fréquence, de rythme, d'intonation ? Donc il y avait toute une enquête scientifique qui se faisait sur naissance de la parole, émergence de la parole. Et puis, après, il y a quand même la question de l'informatique. Parce que je crois qu'entre science et art, on peut faire toutes les analogies du monde.
À un moment donné, il y a la parole, mais il y a la voix aussi.
Il y a aussi la voix. C'est vrai. C'était au départ la voix, mais qui deviendra une parole. Et à un moment donné, le médium technique se pose. C'est-à-dire que je pense que si on met en face à face science et art, on peut les laisser en face à face. Il y a des effets d'analogie, des stimulations, parfois réelles, parfois un peu creuses, parfois un peu modes. Mais je pense que la question technique, elle se pose. Parce que dans la question technique, il y a une altération finalement. Le technique altère notre évolution humaine. Enfin, l'idée que la technique soit aveugle, que l'humain...
L'humain est un animal technique.
L'humain est un animal technique et la technique est une forme d'individualisation.
Il n'y aurait pas eu d'humain sans technique.
Voilà.
On n'aurait jamais survécu les 10 premières années.
Donc la technique fait partie de la destinée humaine, s'il y en a une. Et cette technique aujourd'hui est de plus en plus envahissante. Et donc l'imaginaire artistique doit... composé avec cette technique, comme il l'a toujours fait. La précision d'avant devient la technique, par exemple, l'informatique. Et donc, notre Jonathan Harvey, qui avait cette obsession de la mixture entre la parole, la voix, restons juste sur la voix, et l'instrument, il a pu utiliser des techniques informatiques pour simuler l'approche. Vous avez une cible, que serait la voix, et vous avez une donnée, qui est un orchestre. Et donc, l'informatique vous aide à atteindre cette cible, à l'approximer, si on peut dire. Et puis, tout ce processus-là a donné lieu à la création d'un logiciel d'orchestration. Alors, la machine propose des solutions. 90% des solutions sont rejetées par l'oreille, par le métier du compositeur. Et puis, il y en a 10 qui sont surprenantes. Et là, il se dit, j'y vais. Et à la fin des fins, on a eu donc une série de thèses autour de ce projet. Un logiciel, Orchidée, qui aide à orchestrer. C'était pas une béquille pour l'imagination, comme certains pensaient. C'est plutôt une hypothèse que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Enfin, dans une démarche... de création, même, je dirais, déductive. Je crois beaucoup à la fois inductif et déductif. Et à la fin, une création. Parce qu'il y a aussi cet acte qui doit être en public. Et je crois qu'une œuvre, non seulement parle de l'imaginaire d'une personne, l'artiste, mais doit à un moment donné ébranler quelque chose dans l'imaginaire collectif. Je crois beaucoup à ça. Avoir un effet sur une collectivité. Alors, on peut voir le pire dans l'imaginaire collectif, on peut aussi voir des choses très puissantes. Je pense que Wagner a marqué l'imaginaire collectif. Je pense que Stockhausen, lorsqu'il a eu des visions complètement folles, a pu marquer un moment collectif. Il n'a pas simplement donné libre cours à son imagination. Il a rencontré quelque chose, il a croisé quelque chose. Et donc, tout ce mouvement a duré à peu près 4 ans ou 5 ans. Mais en 1980, ça c'est une histoire de 2008, en 1980, Jonathan Harvey, le même compositeur, avait déjà la même idée. Il avait enregistré La Cloche de Winchester, où son fils choriste chantait. Il a voulu mêler les harmoniques de la cloche à la voix du fils. Il a voulu imaginer que la salle devenait la cloche, où elle résonnait. Et donc, à l'époque, seul logiciel chant créé à l'IRCAM pouvait réaliser cette intrication entre la voix humaine du garçon choriste, on est vraiment en Angleterre, et la grande cloche. Et ça a donné Mortuos Plango, qui est une pièce hallucinante, parce que vous vous retrouvez à l'intérieur d'une cloche et vous avez cette voix qui voltige autour de vous. Donc, 30 ans après, il réédite l'idée autour de l'orchestre. Voilà, et je pense que ces idées fixes-là, qui rencontrent la technique, c'est ça l'imaginaire qui se développe. Il y a un temps perdu de la recherche, hein, j'aime bien dire ça, parce que je pense qu'il est absolument nécessaire. Il compromet d'ailleurs l'œuvre finie. C'est un grand bienfait de se dire qu'une œuvre finie est compromise par la recherche. Et puis à un moment donné, vous avez un rendez-vous où l'œuvre sort de son laboratoire et il faudrait qu'elle provoque quelque
Donc
chose.
Donc il y a du temps long, un peu comme en science.
Oui. Il y a un temps très long.
Les individus sont impatients dans les deux domaines, mais le temps est long, malgré tout, dans les deux cas.
Absolument. Et puis, je pense qu'il y a de la copie aussi, qui est passionnante. Si une œuvre est réussie, elle va être copiée. Si c'est un prototype, donc nulle part ailleurs, il va être partout ensuite. C'est-à-dire, je pense que le vecteur, c'est l'idée du prototype, quand même, qui existe en art, de la même façon qu'il existe en science. Je crois beaucoup au prototype. Beaucoup plus au prototype qu'à l'idée de progrès, finalement. Puisqu'il n'y a pas de progrès en art, mais il y a du prototypage.
Mais il y a des prototypes qui ne sont pas infectieux.
C'est vrai, il y a des prototypes qui... D'ailleurs, il y a des épaves prototypes. Il y a beaucoup de prototypes qui sont restés...
On peut les ressortir ?
Parfois, c'est pas très intéressant. Parfois, oui. Il y a eu des claviers de lumière, il y a eu des compositeurs qui ont imaginé des synesthésies complètement folles au début du siècle. Scriabine a imaginé ça. Alors je peux vous donner un autre exemple de prototype très frappant et qui a beaucoup marqué Jonathan Harvey, c'était Stockhausen. On peut dire Stockhausen, il a tout le temps fait prototype. Chaque œuvre est extrême dans son ordre. Il va dans l'ordre maximal ou dans la musique intuitive. Tu feras un son quand tu le sentiras. Il va dans le cosmique ou il va dans le micro-élément. Il a toujours fait, ce qui est d'ailleurs fatigant à le suivre, il a toujours fait acte de prototype. Et il a créé une œuvre extrêmement marquante qui s'appelle Hymnon en 68 avec une idée toute simple. Je vais écrire une musique de la Terre entière. Donc je vais y mettre des objets que chacun connaît, les hymnes. Il n'y a rien de plus bête qu'un hymne. Voilà. Et puis je vais les transformer. Et du coup, l'oreille va écouter comment c'est transformé, parce qu'elle peut s'appuyer sur des objets connus. Et puis je vais y ajouter des sons concrets. Et puis je vais faire entendre le studio. Le studio devient une sorte de monade qui regarde le monde. Et vous entendez aujourd'hui sa voix. Et je pense que c'est le vrai acte de 68. Ce ne sont pas les anciens combattants qui reviennent en disant comme ils ont été libertaires avant d'embrasser...
C'est l'année de votre naissance, de toute façon.
C'est pas presque. En tout cas, je ne sais pas si on est à soi-même en 68, mais je ne pense pas que ça marquera le siècle. Le siècle avait 68 ans, c'est ça. En tout cas, ce qui est frappant quand vous entendez Hymnon, la folie de cette pièce, c'est cette idée d'écrire une musique universaliste, ou en tout cas à visée universaliste, où, en fait, vous observez comment c'est fait. Et aujourd'hui, qui pourrait faire ça ? À mon avis, c'est une machine. Puisque une machine a cette mémoire immense de tous les corpus, de toutes les musiques, de toutes les données. Enfin, vous pouvez prendre toutes les musiques. Et c'est aujourd'hui une machine qui pourrait écrire un nouvel...
Et la machine, on va y revenir après la pause musicale.
Oui.
Mais cette machine, j'aimerais comprendre comment elle est construite dans l'interaction entre les scientifiques et les musiciens. Parce que la machine elle-même est une œuvre, d'une certaine façon, parce qu'à chaque fois, il vous faut... Il y a les machines banales, mais il faut nourrir la machine de quelque chose qui est le travail des scientifiques en contact avec les artistes. Donc ça, ce serait intéressant que vous nous racontiez, même brièvement, comment ça se fait concrètement à l'IRCAM.
Culture, imagination, Alain Prochian.
Donc nous reprenons cet entretien avec Franck Madlener, directeur de l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, alias IRCAM. Et ce que j'aimerais demander à Franck Madlener, c'est de rapidement quand même, parce que c'est important de savoir comment les choses se font. Parce qu'elles se font, c'est matériel quand même aussi ces choses-là. Et comment se fait l'interaction entre les scientifiques que vous avez, qui viennent du CNRS, qui viennent de l'université, et puis vos musiciens qui sont là en résidence pendant un certain temps. Comment ça se passe ?
Mais je dirais que les scientifiques qui travaillent sur des grands domaines de recherche, par exemple l'apprentissage machine, qui est une chose très importante en informatique, les langages synchrones. Et puis à un moment donné, un artiste débarque et il va faire un court-circuit. Parce qu'il aura une oreille experte, une attente un peu brûlante, et donc il va accélérer les choses, d'une certaine façon. Ou peut-être les réduire. Peut-être se dire, je n'ai besoin que d'une fonction, mais vous me la faites, et on la fait ensemble. Et par exemple, lorsque Daniel Eguizi a voulu travailler sur la machine apprenant et produisant des leaders de Schubert, il a fallu accélérer les choses. On peut pas dire à un artiste, revenez dans 10 ans, quand nous aurons peut-être un peu, dans le meilleur des cas, avancé sur le machine learning et sur l'intelligence artificielle, bon, qui est finalement très souvent de la similarité artificielle et rien de plus. Or, ce que voulait cet artiste, c'était, je voudrais être surpris par une chose fabriquée par une machine, par une intelligence computationnelle, et éliminer, et puis observer comment elle apprend. C'est-à-dire sa faculté à agencer les choses. Vous savez, Stockhausen le faisait à la main. Il faisait des mash-ups, des collages à la main. Et là, on voit comment cette machine se débrouille elle-même. À partir de quoi ? À partir de données massives. Et est-ce que, à partir de ces données massives, est-ce que du neuf, de l'inconnu, va sortir ? Très souvent, non. Très souvent, non, parce que ce sera de la similarité qui va être faite. C'est simuler un monde, ça ne va pas l'interrompre. Mais il y a des moments, des articulations, des points d'inflexion qui vont être retenus par l'artiste. Et après, je crois beaucoup à l'expérimentation commune. Lorsque le spatialisateur a été créé à l'IRCAM, à nouveau, cela s'est fait avec des artistes dans le laboratoire. Lorsqu'on fait des voix de synthèse, eh bien, vous avez des musiciens qui vous disent c'est atroce ou c'est supportable. Voilà, donc c'est tout ce rapport d'apprentissage qui est très important. Et puis, je pense qu'à un moment donné, ce qui est absolument essentiel dans tous les processus de création, c'est pas tant l'apprentissage que ce que moi j'appelle de désapprendre. C'est-à-dire de pouvoir, à un moment donné, renverser la table. Alors désapprendre, c'est pas être naïf, parce que vous n'apprenez rien si vous êtes naïf. L'art naïf, d'ailleurs, est assez rare. C'est plutôt échapper à l'historicisme, échapper à ce continuum, et se dire... J'ai bien conscience que tout ça a été fait, mais je vais faire un pas de côté. C'est l'exemple qui me vient souvent en tête, c'est la façon dont des peintres copiaient et recopiaient au Louvre les maîtres anciens pour éviter que leur métier soit de la copie. C'est-à-dire, je copie pour avoir conscience des habitudes, pour avoir conscience de la routine. Et quand je vais faire moi-même, eh bien, je vais échapper peut-être à cette routine. Et si je prends le cas d'un interprète, je crois beaucoup qu'un interprète, vous prenez Glenn Gould, vous prenez de fameux interprètes, ils ont plusieurs fonctions. L'interprète, il fait face à une masse de versions muséales. Enfin, il étouffe. Et je pense que c'est comme un scientifique, il étouffe sous la bibliothèque, il étouffe sous les références, sur les notes en bas de page. Il étouffe littéralement sur la constitution de corpus de données, sur chaque chose qu'il fait. Et l'interprète inventif, il va pouvoir faire un pas de côté. Et l'exemple, pour moi, le plus surprenant, le plus inattendu, un des exemples, il y en a d'autres, c'est notamment l'exemple d'un compositeur, non, je veux dire, d'un interprète, d'un pianiste très fameux de l'époque soviétique, qui était Sviatoslav Richter. Alors, Richter a un répertoire phénoménal, il joue tout. Mais il ne joue pas à l'authentique. C'est-à-dire que quand il joue du Haydn, il le joue avec une violence, avec une brutalité de celui qui est contemporain de Prokofiev. C'est-à-dire que Richter a créé, pendant la Seconde Guerre mondiale, des sonates de Prokofiev. Et donc cette violence du présent se retrouve dans son interprétation du passé. C'est-à-dire que quand il interprète, ce n'est pas lui qui est là avec son diffusion, ce n'est pas non plus l'objectivité qui est très irritante. Vous savez, quand un interprète monte la partition, je n'ai rien fait, c'est juste la partition, ce qui est faux, la partition, elle doit être interprétée, même aujourd'hui. C'est plutôt, il sollicite notre écoute par la vivacité. C'est-à-dire qu'il casse l'historicisme. Et le passé n'est pas un socle immobile, c'est plutôt une réinterprétation du passé. Il y a un regard qui renverse les immobilités. Et je dirais ça, c'est la vraie interprétation. Et cette question de sortir de la bibliothèque qui étouffe, c'est ce que Pierre Boulez appelait l'amnésie créatrice. C'est-à-dire on ne peut pas être oublieux. Tout est là. Mais on doit pouvoir avoir des lacunes.
Ou accepter de voir ce qui ne colle pas.
Oui.
Avec l'historicité. C'est-à-dire oui. qu'il y a des choses qui surgissent. À votre attention, qui s'offre à vous et que vous n'avez pas le droit d'ignorer au nom de l'historicité. C'est-à-dire que c'est pas tellement effacer la mémoire que de savoir l'interrompre quand quelque chose d'autre vient qui ne colle pas avec ce qui s'était passé avant.
Et finalement, je pense que c'est la vraie pensée de l'histoire. L'histoire comme suite d'interruption, comme suite de bouleversement, et pas comme continuum tranquille. C'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est qu'un bouleversement continu, on pourrait dire. Et là, la fameuse dialectique imagination-mémoire, elle se résout par le désapprentissage. C'est-à-dire que vous avez l'imagination qui naît de la mémoire, mais avec des trous, avec des interruptions, avec, je pense...
Bah, l'imagination, elle vient aussi du fait que on voit tout d'un coup ce que cette incongruité pourrait apporter de plus dans la création artistique, dans la création scientifique.
Oui.
Alors que le mouvement naturel serait dire, oh là là, on le met sous le tapis, quoi.
C'est de la préservation ou voilà. De la crainte
de
ses pairs aussi
De la peur, oui.
De la peur. Et je pense qu'il y a deux domaines ou trois domaines où l'imagination est absolument indispensable. L'art, on l'a dit, la science, mais je dirais aussi le domaine de la politique. Parce qu'en fait, dans la politique, j'y pense beaucoup, parce que dans la politique, vous avez affaire au réel, bien qu'il soit souvent oublié. Vous avez affaire beaucoup au symbolique. Quoi, il n'y a plus le réel, il y a le symbolique, hein, les oripeaux du symbolique, et l'imagination, c'est-à-dire à un moment donné, votre imagination qui s'adresse à un imaginaire collectif. Et je crois que autant que l'art, la politique a besoin de cette imagination. Et l'imaginaire, à ce moment-là, devient un monde réel. C'est ça, finalement. C'est que ce qu'on a entendu de Lachenmann, ce qu'on entend de Richter, c'est un monde réel. C'est une réalité encore plus tangible, encore plus intense que la nature première.
Évitez le « je n'y crois pas ». C'est curieux, des scientifiques disent souvent « je n'y crois pas », comme s'ils étaient là pour croire, ou « ce n'est pas possible ». Ce sont les deux obstacles, en fait, dans les deux domaines de l'art comme de la science, je pense.
Ou c'est temporairement impossible.
Temporairement impossible. Bon, tout devient possible à la fin.
Oui, sans doute. Voilà. La fin oblige au possible, ça c'est vrai.
Est-ce qu'on va s'autoriser une pause musicale, puisqu'on a la chance d'avoir un musicien avec nous. Donc on en aura une de plus que d'habitude. Thank you.
culture. Imagination, Alain Prochian.
Donc nous reprenons Franck Madlener, je rappelle, mais qui ne le sait, que vous êtes directeur de l'IRCAM, mais que nous avons cet entretien sur cette question de l'art, de la science, de la mémoire. Et maintenant, nous allons nous poser la question de... Avec l'irruption de... Bah, l'irruption, peut-être pas d'ailleurs, mais avec l'amplification de la technique, d'une certaine façon, dans les pratiques artistiques, parce qu'elle a toujours été là, la technique, dans les pratiques artistiques, bien entendu. Est-ce qu'on peut, en allant à l'asymptote de la chose, imaginer, éliminer complètement l'humain ? C'est-à-dire ne plus avoir qu'une pratique artistique de machine.
Alors
on dit toujours ce que les machines pensent. Est-ce que les machines sont musicales ? Est-ce qu'elles inventent en art aussi ? Voilà.
Alors, on n'est pas encore très loin là-dedans, en fait, parce que c'est comme quand vous voyez un robot marcher, vous trouvez ça complètement balourd et niais. Et
comme un homme sur la Lune.
Voilà. Alors, la machine qui pense, il y a des effets de sidération et des effets d'annonce aussi, hein, des effets d'annonce marketing, parce qu'il faut montrer qu'on avance. Et alors, très souvent, dans ce marketing, on dit... ça marche, mais l'humain fera toujours mieux. Ce qui est dommage, en fait, c'est tout ce détour pour ça. C'est-à-dire, on fait tant d'efforts pour à la fin nous dire, mais l'oreille humaine, mais la sensibilité, mais en fait, ce qui serait extraordinaire, moi, je pense, ce qui serait absolument génial, c'est d'avoir des hétéronymes, c'est-à-dire des autres soi machines, non pas de produire des avatars, non pas simplement de produire des œuvres à la manière de. Voilà, parce qu'il y a une connaissance, il y a de la computation, mais plutôt avoir des autres soi qui, à partir d'un même matériau, vous fabriquent quelque chose et puis vous le regardez et vous entrez en concurrence. Et là, moi je dirais ça, ce serait un compagnonnage.
C'est une forme de clonage, en fait.
Oui, de clonage, de compagnonnage et pas nécessairement de domination. Ce qui est ennuyeux dans toutes les histoires science, homme, machine, c'est aliénation, servilité, domination. Ce serait plutôt... il y a quelque chose qui vient me concurrencer, voire m'effacer, et je vais voir ce que ça vaut. C'est-à-dire, il faut le voir en action. Alors la voir en action, voir comment un programme informatique s'autoprogramme, comment il y a des logiques concurrentes, comment. Et ça, je crois que ce serait. Vous savez, par exemple, en littérature, il y avait Pessoa qui avait inventé des hétéronymes qui écrivaient dans un autre style que lui. Imaginez que ce soit une machine qui fasse ça pour l'écrivain. D'abord, il gagne beaucoup de temps. Ce qui est quand même précieux dans une vie courte,
finalement
horriblement courte. Il gagne beaucoup de temps et puis il devient lecteur. Il n'écrit pas toujours, il est lecteur de lui-même. Enfin, il y aurait une sorte de relation, de dialogue, et moi je trouve ça passionnant. Je pense encore à autre chose. L'automate est tout à fait riche. Il y a un film prodigieux, la seule comédie qui fait Lars von Trier, qui s'appelle Le Directeur. C'est un directeur d'entreprise qui va se faire sortir par ses employés, ce qui est déjà amusant. Et en fait, il y a un montage automatique, c'est-à-dire que les acteurs jouaient. Et c'était même pas le metteur en scène qui donnait le final cut. C'est-à-dire qu'il y avait un montage réalisé par un programme informatique qui crée une sorte de surprise, en fait, de... Ce qui est très, très beau, c'est l'abandon de la maîtrise. Moi, je suis absolument convaincu qu'on s'accorde un abandon.
Mais c'est à voir avec l'interruption de la mémoire.
Oui.
Lâcher la rampe,
c'est à voir avec le goût de l'interruption, le goût de l'arrêt, du segment, du fragment... plutôt que du grand champ continu. Moi, je trouve ça fatigant, les états qui perdurent. C'est très beau d'avoir ces espèces de secousses, d'intermittence, quoi. Et en effet, d'imaginer que une machine, pour aller vite, c'est très large le terme machine, puisse provoquer ça. Alors après, ça va peut-être mettre à mal l'humanisme, mais l'humanisme, bon, on sait depuis Foucault, depuis tant d'autres, que c'est un temps. C'est un temps dans l'histoire, et c'est pas un temps éternel. C'est pas si grave si l'interruption se prolonge.
L'espèce humaine n'est pas faite pour durer. C'est une espèce tragique.
C'est une espèce tragique. Elle a marqué son temps, on pourrait dire ça comme ça, non ?
C'était un exploit fulgurant quand même. Jamais une espèce en si peu de temps avait eu un tel succès.
Et autant détruit aussi.
Mais c'est une espèce tragique. Elle se détruira elle-même. C'est pas si grave. La nature reprendra ses droits.
Oui, alors là, vous invoquez la nature. Ça m'étonne.
Oui, mais la nature sans l'homme. Donc il n'y aura personne pour la chanter.
D'accord, donc c'est la nature en soi.
Pas. Voilà, la nature en soi, évidemment.
Mais la machine peut aussi être un relais, hein. Moi, je pense.
Oui, il y aura des machines, mais elles vont finir par rouiller.
Non, mais je pense qu'il y a vous savez, c'est comme les prothèses. Enfin, on a tous les espoirs de vivre en bonne forme, longuement, avec tous ces soutiens. Moi, je crois beaucoup aux implants, je crois beaucoup à ça.
Ah oui, mais ça a déjà commencé. Vous allez porter des lunettes bientôt. Donc, c'est une vieille histoire, le cyborg.
Absolument. Hein? Par contre, ce qui n'existe pas encore, et on est loin du compte...
L'ordinateur est une forme de cyborg.
Absolument.
Hein? Il prolonge le cerveau.
Mais, mais on voit aussi, les ratés des cybernétiques. La voiture autonome qui ne rate pas son piéton. C'est quand même
C'est un succès ou une erreur?
Bon, en tout cas, c'est une erreur qui a l'air de fameusement ralentir le développement de ces voitures sur lesquelles beaucoup ont misé.
Ou de travailler sur des voitures qui vont les rater.
Voilà.
Et ça peut être aussi une forme d'essai-erreur. Je veux dire, bon, il y a forcément des dommages collatéraux.
Après, ce que répondent tous les ingénieurs, tous les informaticiens, c'est que l'intentionnalité humaine n'est pas encore à ce stade reproductible. On ne peut pas confier l'intentionnalité, dont on ne sait pas exactement ce que c'est, directement à la machine. Mais moi, je crois qu'on peut imaginer des compagnonnages, vraiment, où l'un prend le relais sur l'autre, domine l'autre. C'est un jeu, il y a aussi un jeu. Tout n'est pas... Même le tragique peut être un jeu.
Le tragique est un jeu. Un jeu tragique, c'est tout.
Voilà. Hein?
Puisque vous parliez de Foucault, ce qui m'intéresse parmi beaucoup de choses dans votre façon de penser, c'est le lien avec la littérature. Mm. Et en particulier, vous aviez fait des choses avec Guillotat,
oui.
À l'IRCAM, qui étaient vraiment passionnantes, qui ont à voir à la fois avec la voix et avec le texte. Est-ce que, puisque nous allons plus que quelques minutes, 5 ou 6 minutes, vous pourriez élaborer un peu sur ce rapport entre la musique et la littérature, le rôle de la voix, en fait, dans cette affaire.
Alors, ça nous ramène un peu au début, puisque finalement, Schumann, en son temps, hésitait énormément, a toujours hésité entre la voix littéraire ou la voix musicale. De même qu'Alban Berg, d'ailleurs, il y a cette proximité. Ils écrivaient très bien l'un et l'autre. Alors, quand on a lancé ce projet avec Pierre Guyotat, c'était d'abord avec quelqu'un qui est fou de musique et qui a une véritable passion et connaissance encyclopédique et vécue de la musique, de la musique du Moyen-Âge jusqu'aux œuvres les plus contemporaines. Alors après, comment marier le rythme d'une langue, le propre d'une langue, et une musique qui a évidemment un rapport de force. Il y a peut-être il y a trop de monstres dans le même endroit. C'est ça la difficulté de trouver. C'est toujours la difficulté de l'opéra, parce que finalement l'opéra, il y a toujours eu, à de rares exceptions près, une domination de l'un ou de l'autre, soit la stupidité du livret qui est complètement magnifiée par la beauté du flux musical, soit le texte qui est passionnant et la musique qui est une sorte d'aplat. Voilà. Mais ce que je trouve à nouveau très passionnant dans la relation entre le littéraire et le musical, c'est cette question du rythme. C'est vraiment cette façon dont on a la capacité, notre cerveau humain, a la capacité de percevoir des rythmes multiples. Ce à quoi je suis sensible dans un texte comme dans une musique, c'est à l'équivoque, c'est pas l'univoque, c'est que ça se passe sur plusieurs strates, sur plusieurs... on change tout le temps, en fait. Et c'est cette variété, cette multiplicité qui est intéressante. Quand vous avez une musique qui dit « je suis ce que je suis », c'est profondément ennuyeux, c'est comme une littérature qui n'est que univoque, voilà.
Mais l'écriture est souvent équivoque, plus que la parole même.
Beaucoup plus que la parole. Beaucoup plus que la parole. La parole est à la fois tâtonnante et très affirmative. Enfin, elle a besoin de convaincre. Moi, j'ai besoin de vous convaincre, je n'y arriverai pas. Elle a besoin de rhétorique, j'y arriverai pas non plus. Et vice-versa. Donc je crois que la parole, elle est extrêmement limitée. Et définitivement, je pense que ce qui rejoint tout ça, c'est l'écriture. Ce qui est extrêmement puissant dans la musique, c'est le fait que ce soit un code, le fait que le plus physique, le sonore, c'est ce qu'il y a de plus physique, traverse le plus abstrait qui est le code. Et ce qui est encore plus beau, c'est que la partition n'a aucune valeur marchande. Ce qui n'est pas le cas des arts visuels. Elle n'a strictement aucune valeur marchande, c'est un simple code qui demande un interprète et un lieu public pour exister. Et ça, elle partage avec la littérature, finalement.
Parce que c'est une forme de
de fabrique de pensée.
Oui.
C'est-à-dire que l'écriture, on voit bien, n'importe qui se met à écrire, il voit bien que ça crée de l'intelligence, ça crée de la pensée.
Parfois non.
parfois non. Le plus souvent, non. Mais enfin, il y a quand même quelque chose là-dedans. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose avec la machine ou avec le stylo, j'en sais rien. Il y a eu des discussions comme ça. Ça doit dépendre des gens, j'imagine.
Oui.
Mais la voix, c'est pas un peu la même chose?
Alors, avec la voix, et puis revenir à ce projet autour de Guyotat, c'est aussi le corps, c'est-à-dire cette idée qu'une voix trahit quelque chose, trahit un corps, trahit... En prenant le mot corps plutôt que humain, je trouve ça plus intéressant. Et finalement, il n'y a pas de filtre. Alors quand vous mêlez la voix à la machine, vous êtes dans l'apparemment le plus naturel avec le plus artificiel. Et ça, vous créez des choses absolument hallucinantes.
Mais vous avez créé quelque chose de très hallucinant, c'est la résurrection de Marilyn Monroe, par exemple.
Oui, alors ça, c'était sous l'impulsion d'un artiste, Philippe Parreno, qui imaginait Marilyn Monroe lisant ses carnets intimes. Alors évidemment, elle l'a peut-être fait, mais elle l'a pas enregistré. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des actrices qui imitent plus ou moins bien la vraie, et puis on les a marinisées en analysant
la voix,
la cible, la voix. Et donc, autour de votre voix, on pourrait transformer votre voix en faire un cœur, en faire un animal. C'est vraiment passionnant. Parce que ce qu'on croit être le plus naturel, c'est de nouveau cette affaire de la nature, la première nature, en fait, est altérée, est altérable, est mutable. Et c'est ça qui est excitant, c'est que finalement, rien ne reste intact.
Je crois que c'est une assez bonne conclusion, cher Franck Madlener, que rien ne reste intact. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui.
Merci.
Et puis, j'espère que nous reprendrons cette conversation, peut-être à l'atelier ou au laboratoire, si vous me faites la grâce de venir me voir.
Absolument.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Christine Robert. Assistée de Delphine Derbier, stagiaire.